Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Patrick Derry. Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Patrick Derry.
Alors, on a cette nouvelle aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Plus de 875 millions aux agences privées. La facture grimpe en flèche depuis 3 ans, notamment pour des infirmières, aussi pour des agents de sécurité. Il y a 2 ans, c'était 350 millions. Là, c'est pas loin de 900 millions. Ça a presque triplé. Évidemment, c'est payant pour les agences de placement. On en discute avec Maxime Lapointe, qui est notamment avocat en immigration, mais aussi collaborateur à l'émission. Salut Maxime. Oh, on a un petit problème de son avec Maxime que je n'entends pas présentement. Je sais pas si c'est revenu.
Allô, allô.
Ah ben, bon, écoute, je sais pas si t'as entendu mon introduction.
Oui, c'est bon.
Bon, ben, j'ai ton approbation. Bon, c'est correct maintenant. Mais toi, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois dans tout ça?
Ben, je vois que on vient qu'à privatiser des professions qui sont normalement desservies dans le milieu public. Donc, l'employeur, c'est le gouvernement du Québec. Il y a aussi des résidences privées de personnes âgées qui embauchent évidemment des préposés aux bénéficiaires. Et on voit que la machine est inarrêtable. Il y a quand même des pressions pour faire ralentir les services d'agence qui surchargent, là, soit dit en passant, là. On parlait de plus de 150 $ pour une infirmière, là, quand le coûtant était peut-être autour de 50 avec les déductions à la source. C'est la même chose en passant pour des préposés aux bénéficiaires. Là. J'ai des gens dans mon entourage qui ont des résidences de personnes âgées. Là. On facture environ 55 $ puis on les paye à environ 25. Là. La CNESST a tenté de légiférer là, depuis 2020, là, mais ça peut pas outrepasser la gloutonnerie des agences de placement, parce que dans le fond, ce qu'on a dit à la CNSST, un, on demande un permis, c'est tel que tel. Deuxièmement, est-ce qu'on oblige d'avoir le même salaire qu'on paierait l'employé si c'était un employé de l'employeur qui embauche l'agence? Donc, exemple, si la grille salariale à l'interne, c'est 25 $, ben, l'agence, elle, peut pas payer le préposé au bénéficiaire, exemple, de l'agence à 20 $. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut refiler la facture au client puis vendre la prestation de travail plus cher. Donc, c'est un peu ça. Là, on est dans une roue qui tourne, mais dans le mauvais sens. Puis, c'est sûr que c'est confortable pour les entreprises.
C'est drôle pareil, parce que c'est une branche du gouvernement qui a créé une règle pour que ça coûte encore plus cher au gouvernement.
Effectivement, puis ma question, premièrement, c'est quoi la plus-value de l'agence à part que de gérer des travailleurs puis les dispatcher à gauche, à droite? En quoi l'employeur qui est le gouvernement n'est plus capable de le faire? Donc ça, c'est une sérieuse question à se poser. Je parlais ce matin avec une préposée aux bénéficiaires, une cliente, épouse d'un de mes clients, qui me disait qu'elle aimait ça, elle travaillait... Elle voulait travailler pour une résidence et non pour une agence. C'est quand même particulier, là, celle-là, Patrick. Donc, elle voudrait plus travailler pour un CHSLD, entre autres, pour avoir les conditions de travail au niveau du régime de retraite, entre autres. Là. Mais ce qu'on voit, c'est généralement, c'est beaucoup le contraire. Donc, des gens qui délaissent le public, qui vont travailler dans des agences, un peu aux heures qui leur conviennent. Là. Il y a beaucoup, évidemment, de temps supplémentaire obligatoire qui fait mal à l'industrie en général de la santé, là, les hôpitaux. Mais là, on fait quoi? On peut pas juste laisser les agences continuer à surfacturer. T'sais, quand on est rendu à 3 fois le taux horaire de travailleurs, là, je pense qu'il y a de l'abus, là.
Oui, mais le problème, c'est-tu les agences ou c'est le gestionnaire? Tu le dis toi-même, tu as posé la question, on dirait que le gouvernement, il est plus capable de gérer ses propres employés. Tu sais, s'il y a des agences, c'est parce qu'il y a du personnel de la santé qui en peut plus des conditions de schnout, puis du temps supplémentaire obligatoire qui arrive n'importe quand, ou si en début de carrière, on sait qu'il y a des démissions en bloc, les 5 premières années, là, pour les infirmières, par exemple, c'est l'hécatombe, parce que les horaires sont tellement mauvais qu'ils disent, OK, moi, je veux plus rien savoir de ça. Je m'en vais. On refuse des jobs à temps partiel. Puis c'est drôle, là, dans la partie anglophone du réseau, eux autres sont capables de concilier un petit peu mieux ça. Là. C'est pas parfait, mais par exemple, c'est pour les il y a des horaires de 12 heures en rotation. Puis c'est les fins de semaine sont réparties sur tout le monde. Fait qu'il y a pas cette fiction-là d'aller vers du 9 à 5. Là, puis là, je simplifie un peu. Fait que tout le monde se répartit la charge. Ben, ça reste plus stable aussi, là.
Ça, c'est peut-être la solution la plus difficile. La solution la plus facile, c'est laisser entrer les agences comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais au prix que ça coûte aussi. Puis ouais. Mais on vient qu'à privatiser, justement, là, les professions. Là. C'est ça qui est particulier. Là. Donc, tu sais, puis je te parle pas du bout, justement. Est-ce que les agences font vraiment un travail sérieux à savoir si les travailleurs ont un permis de travail valide, puis est-ce qu'ils ont un statut valide au Canada, ou sinon, personne ne regarde ça. Puis dans le fond, c'est l'agence qui s'occupe de facturer puis de payer le travailleur. Il y a eu, comme je te dis, un bout de fait en 2020 là, de la CNSST de régulariser un peu là, au niveau, de s'investir au niveau des agences de placement de personnel et les firmes de recrutement à l'international. Mais je pense que là, en 2023, il faudra redonner une couche de plus parce que il faudrait caper, mais tu sais, maximum, ce soit exemple comme les 2,5 fois, peut-être 2 fois le salaire. T'sais. C'est beau le frais de gestion, là, mais je pense que là, la fourchette est haute. Puis des agents de sécurité, Patrick, c'était 75 millions en 2017-2018, 353 millions en 2021-2022. Pour des agents de sécurité qui fondamentalement surveillent les gens qui se lavent pas les mains là, dans les hôpitaux, dans les résidences. Là. Donc, ça vient un peu quand même sensible. Puis je reviens encore à ça parce qu'évidemment, celui-ci, c'est mon domaine. Mais est-ce que ces gens-là ont tous un permis de travail? Probablement pas.
Ouais. Non, c'est ça. Écoute, ça soulève plein de questions. Mais tu sais, moi, des fois, je me demande, la machine est-tu trop grosse? Tu sais, le ministère de la Santé, là, c'est autour de 300 000 employés, là, avec toutes les subdivisions. Là, c'est énorme. Là, tu regardes, par exemple, en Europe, là, et les hôpitaux, ils engagent leur personnel. Tu sais, c'est pas le CIS ou le CIUS ou le machin, mais les hôpitaux, ils engagent leur personnel. Ils engagent leurs médecins aussi, d'ailleurs, des médecins salariés, ça, c'est une autre affaire. Puis tu sais, il n'y a pas cette distinction-là public-privé. C'est-à-dire, tu as une assurance collective, tout est couvert. Puis là, tu as des fournisseurs publics, tu as des fournisseurs privés. Puis tu sais, on s'arrange comme ça. Fait que si on... Je sais pas, comme l'impression que c'est hors de contrôle, cette affaire-là, puis que on en verra pas le bout.
Pour avoir un éventuel partenariat, peut-être public-privé, dans le sens qu'il y aurait une agence qui régirait les autres agences, là, pour essayer qu'il y ait quand même pas trop de disproportion puis pas trop d'abus. Parce que, comme je te dis, c'est rendu trop facile, même les résidences et les RPA, parce qu'ils peut-être qu'ils calculent pas la mathématique à tous les jours, mais payer 55 de l'heure pour une agence là, versus 20, peut-être avec la prime de 4 peut-être en COVID, là, 25, c'est pas une bonne dépense. Et oui, moi je pense qu'il faut aller recruter à l'international. Et c'est sûr qu'on paye des frais gouvernementaux, des frais légaux, mais au moins essayez de vous monter une banque de candidats à vous-même puis de les garder. Maintenir les gens en emploi, tu le sais, c'est un défi qui va être problématique dans les prochaines années.
Tant qu'à payer 150$ à une agence, tu pourrais peut-être payer 75 au lieu de 50 à des employés puis leur donner des horaires sous le sens du monde puis les garder. Mais écoute, ça a l'air que la recette est plus compliquée que ça. Et écoute, tu as une bonne nouvelle à nous donner. Une victoire judiciaire pour un monsieur originaire de la Tunisie qui était au bord de l'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, M. Firas Bouzgarou, j'espère que je le prononce bien, c'est pas mon client, mais j'ai quand même suivi le dossier dans l'actualité. Minuit moins une, a réussi à éviter l'expulsion. Là, l'histoire date de quand même plusieurs années. Là. Quand on devient résident permanent au Canada, Patrick, il y a une période de 5 ans pendant laquelle on doit demeurer sur le territoire pendant au moins 2 ans pour pouvoir renouveler la carte de résident permanent, puis on peut aussi demander la citoyenneté. Donc, il y a une période de 2 ans, il y a une obligation de résidence de 730 jours. Et ce monsieur-là, ce qu'il a fait, c'est quand il est devenu résident permanent, il est reparti rapidement en Tunisie voir sa femme malade, sa fille malade. Les faits précis, on les a pas, on les aura pas. Moi, à première vue, je trouvais que c'était un dossier de, justement, ça arrive souvent des gens qui, après 4 ans et demi, reviennent au Canada. Et là, au service frontalier, ça bloque en disant, mais là, monsieur, je peux pas vous laisser rentrer parce que vous rencontrerez pas votre obligation de 730 jours parce qu'il vous reste 6 mois sur votre 5 ans et vous avez fait 3 semaines. Donc, là, ça fait des mesures de renvoi. Et là, bon, ce monsieur-là est à 2 doigts de la porte et son avocat est... J'ai parlé avec Guillaume Clichrivard tout à l'heure, c'est lui qui représente le dossier, et il me dit, Maxime, t'as pas idée les efforts qu'on a mis dans ce dossier-là. Il y a eu des résolutions à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, il y a eu 9 articles dans les journaux, il y a eu un groupe Facebook avec une pétition de 800 personnes. Il dit, ça me rappelait le dossier que je suis en train de médiatiser moi-même de M. Kabaketa, on en a déjà parlé. Et il me disait, si tu veux te lancer là-dedans pour éviter l'expulsion, attelle-toi parce que c'est un travail herculéen. Puis ce qui attire mon attention là-dessus, dans les commentaires de l'article, il y a une personne, François Dionne, qui a écrit « Les règles sont très claires. Pour conserver votre statut de résident permanent, vous devez avoir passé au moins 730 jours au Canada. » Il dit « Je félicite M. Bousgarou, mais s'il fallait accorder une exception à tous ceux qui dérogent aux règles, on n'en finirait plus et ce serait juste pour ceux et celles qui les respectent. » Honnêtement, je suis un petit peu d'accord avec cette position-là. Monsieur avait, dans ses 5 années de résidence, oui, il a quitté le 3/4 du temps. Il a plaidé des motifs humanitaires, donc il devait s'occuper de la santé de sa fille, sa femme. Il aurait très bien pu les parrainer pour qu'eux-mêmes viennent au Canada, puis ça n'a pas été fait. Mais bon, dans tous les cas, monsieur avait un fort potentiel d'intégration, un emploi ici. Et je salue quand même le fait que ce monsieur-là n'aura pas à partir, même si son dossier était vraiment loin d'être parfait, Patrick. Mais à la dernière minute, le ministère lui a remis une fiche, permis de séjour temporaire, lui permettant de rester. Puis il y a aussi eu une nouvelle demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires qui lui plaît. Ils vont pouvoir repartir sur un 5 ans puis essayer de se régulariser après 10 ans à peu près de contestation.
Est-ce que c'est le fédéral ou le provincial qui est impliqué dans ce dossier, dans ce cas-ci?
Fédéral.
C'est fédéral.
À cette étape-ci, c'est le fédéral. Le Québec a sélectionné M. Bousgarou, il lui a donné un certificat de sélection du Québec. Monsieur a lancé sa résidence permanente au Canada, elle a été approuvée. Et là, tu deviens résident permanent. Tout est beau, tu peux pas voter, mais tu as quand même des droits, tu es résident permanent du Canada, c'est pas rien. Mais en échange, tu as l'obligation de demeurer sur le territoire 730 jours. Il y a des exceptions là, que je te parlerai pas dans ce cas-ci parce que ça s'applique pas en l'espèce. Mais monsieur, lui, est parti très rapidement. Ça arrive souvent. Je le vois dans d'autres dossiers, je le lis. Donc je suis pas très pro Monsieur Bousgarou a priori. Par contre, je salue quand même le fait que si c'était dans son réel désir de demeurer au Canada, puis de travailler, puis de contribuer à la prospérité de la province, as-tu vu les démarches que ça a pris, Patrick?
Ouais, c'est toujours la même chose.
Ça prenait ça à tous les dossiers qui dérapent.
C'est ça, c'est à chaque fois c'est la même chose, c'est beaucoup d'énergie pour finalement, tu sais, c'est correct pour la personne, c'est correct pour l'entreprise, c'est correct pour la famille, c'est correct pour mais tu sais, on a l'impression que la machine a une logique qui est logique
mais,
finalement.
Tout se règle à minuit moins une, on dirait que ça se règle vraiment sur le tarmac. Donc là, dans mon dossier, moi, de M. Kabaketa, qui lui doit quitter le 16 septembre, je te rappelle que lui est marié, donc on dépose la demande de parrainage aujourd'hui, on vient de la terminer ce matin. Il y a un employeur aussi à Québec, le restaurant Le Continental, avec lequel on a une démarche de permis de travail. Donc lui, il a deux options là, pour rester et avoir la résidence permanente. Et j'ai l'impression, malheureusement, le 16 septembre à Montréal, avec un journaliste peut-être, puis une femme qui pleure, on va réussir à sauver ce monsieur-là.
Bon, écoute, tu vois, c'est l'important, c'est pas les règles, la procédure, c'est de faire une grosse plage dans les médias. Maxime Lapointe, avocat en immigration, collaborateur ici, on se reparle demain.
À demain, merci.
Au revoir.